Bonsoir ou peut-être bonjour, tout dépend de l'endroit du monde d'où vous nous écoutez. En tout cas ici à Paris, il est maintenant 18h.
RFI Soir, Philippe Le Caplain.
Bienvenue dans la grande session d'information du soir avec des faits et des commentaires, des reportages et des analyses. Dans 10 minutes après le journal, ce sera Accent du Monde avec les regards croisés des rédactions en langues étrangères de RFI concernant la commémoration des attentats de 2015, Charlie Hebdo, l'hypercachère. Il sera également question des relations difficiles entre l'Iran et la France, de l'économie vietnamienne qui pourrait pâtir de la future présidence Trump et d'une exposition au musée Beaubourg autour des libertés. Dans une demi-heure, ce sera les dessous de l'Infox, quand les grandes plateformes tournent le dos à l'information vérifiée. Ce soir également, la cellule InfoVérif de RFI nous dira comment vérifier une information en direct grâce à l'intelligence artificielle. Afrique Soir s'intéressera entre autres à cette attaque meurtrière contre l'armée béninoise dans le nord du pays, revendiquée par le groupe djihadiste GSIM affilié à Al-Qaïda. Et puis dans 2 heures, sur Radio France Internationale, ici l'Europe, qui recevra l'ambassadeur de France en Pologne, Étienne de Poncin. RFI Soir, 17h en temps universel, tout de suite l'essentiel de l'actualité avec un journal, et c'est avec vous Arthur Ponchelet. Des maisons calcinées, des milliers d'hectares partis en fumée à Los Angeles, un couvre-feu nocturne a été décrété alors que les flammes ravagent toujours plusieurs quartiers de la Cité des Anges.
Les pompiers ne parviennent pas à maîtriser les incendies, au moins 10 personnes sont mortes dans ce que Joe Biden qualifie d'incendie le plus dévastateur de l'histoire de la Californie. La Cité des Anges est survolée par des avions canadairs et des hélicoptères, et pour lutter contre le brasier, Nathanaël Vitran, des prisonniers viennent en aide aux pompiers.
Ils sont plus de 700 prisonniers venus de toute la Californie à creuser des lignes pare-feu autour des zones d'habitation et à déblayer les alentours de tout ce qui pourrait venir nourrir les flammes qui ravagent la région. Un programme controversé spécifique à la Californie permet aux détenus volontaires d'être formés toute l'année et déployés en cas de besoin. Les prisonniers ayant tenté de s'évader, condamnés pour viol ou toute forme de violence sexuelle, ainsi que les pyromanes, sont toutefois inéligibles. En phase avec la privatisation à grande échelle du système carcérale aux États-Unis, les détenus sont payés une misère. Entre 5 et 10 dollars par jour environ, en fonction de leur niveau de compétence, plus 1 dollar de l'heure quand ils font face, comme en ce moment, à une situation d'urgence. Une situation qui peut nécessiter pour ces prisonniers d'assurer des rotations de 24 heures d'affilée et qui n'est pas sans risque. D'après Forbes, au moins 3 prisonniers ont perdu la vie entre 2017 et 2020 en luttant contre des incendies.
Nathanaël Vitran.
L'actualité aux États-Unis, c'est également la dispense de peine pour Donald Trump dans le procès qu'il oppose à une ancienne star du X.
Le futur président est accusé d'avoir versé des pots de vin à Stormy Daniels en échange de son silence. Il comparaissait tout à l'heure à New York, dénonçant une honte pour le système. Pas de peine de prison donc, mais une sentence symbolique pour le républicain, qui va devenir le premier hôte de la Maison-Blanche condamné au pénal.
En Afrique, au Bénin, cette attaque djihadiste qui a tué 28 soldats béninois, c'était mercredi, elle vient d'être revendiquée tout à l'heure.
C'est dans un communiqué que le JNIM, le groupe djihadiste affilié à Al-Qaïda, l'annonce. Il évoque, je cite, la mort de plus de 30 éléments. Un site fortifié de l'opération Mirador a été pris pour cible il y a 2 jours dans la zone du Triple Point. On y revient en longueur dans la première édition d'Afrique Soir dans un peu plus d'une heure.
La France doit rapatrier les djihadistes français emprisonnés en Syrie. C'est ce que dit le chef de la diplomatie turque.
Une option à laquelle rechignent les autorités françaises comme d'autres États européens dont des ressortissants sont gardés depuis plusieurs années dans le nord-est de la Syrie, dans des camps de prisonniers surveillés par les forces kurdes. Des forces contre lesquelles la Turquie menace de mener une nouvelle offensive. Correspondance à Ankara, Dan Andlauer.
Depuis des années, le soutien des Occidentaux, tout particulièrement des États-Unis et de la France aux forces kurdes syriennes, est perçu par la Turquie comme une trahison, ou du moins comme le signe que ses alliés ne s'intéressent pas à sa sécurité. Le fait que ces forces kurdes, les YPG, aient combattu contre le groupe État islamique et qu'elles gardent les camps de prisonniers djihadistes n'est qu'un prétexte aux yeux d'Ankara. C'est le sens des propos de son chef de la diplomatie à Khan Fidan.
Si la France a quelque chose à faire, c'est de prendre ses propres citoyens, de les amener dans ses propres prisons et de les juger dans ses propres tribunaux. Ce n'est pas de les confier au service pénitentiaire des YPG ou d'une autre organisation terroriste et de venir dire ensuite qu'ils soutiennent cette organisation.
Depuis le changement de régime à Damas, la Turquie menace chaque jour de lancer une offensive contre les forces kurdes dans le nord de la Syrie. Mais elle semble privilégier d'abord le dialogue avec le nouveau pouvoir syrien pour atteindre son objectif, le désarmement et la dissolution l'action des YPG. Ankara propose par ailleurs d'aider les autorités de Damas à prendre en charge la lutte contre le groupe État islamique et les milliers de djihadistes ainsi que leurs familles actuellement détenues par les forces kurdes. Anandloer, Ankara, RFI.
Les autorités de Damas, justement, se sont engagées à bloquer l'immigration illégale et à se battre contre les trafiquants de drogue. C'est ce que dit aujourd'hui le ministre italien des Affaires étrangères. Il était à Damas, où il a rencontré le nouveau dirigeant syrien.
À savoir Ahmad al-Sharaa, qui doit recevoir le premier ministre libanais demain.
Première visite officielle depuis la chute de Bachar al-Assad, et elle intervient alors que le Liban a élu un nouveau président, hier, Joseph Aoun. Il est d'ailleurs félicité par les chancelleries du monde entier, aujourd'hui de Moscou à Paris, de Washington à Bruxelles. On espère le début d'une nouvelle ère de stabilité dans le pays. Joseph Aoun hérite en tout cas d'une nation en ruine, dévastée par la guerre avec Israël, appauvrée aussi par la crise économique. Dans son discours d'investiture, Paul Khalife, il a promis un redressement à tous les niveaux.
Joseph Aoun a été élu président après une vacance de plus de 2 ans à la première magistrature qui a entraîné un blocage systématique de toutes les institutions à un moment crucial de l'histoire du Liban. Le premier acte du chef de l'État sera de nommer un premier ministre et de former un nouveau gouvernement pour remplacer celui de Najib Miati, chargé d'expédier les affaires courantes depuis mai 2022. Avec des pouvoirs limités, le gouvernement sortant était paralysé, alors que le Liban est sommé par la communauté internationale de procéder à des réformes économiques structurelles pour bénéficier d'une aide financière cruciale. La formation d'un nouveau gouvernement permettra de relancer l'administration publique, qui fonctionne depuis des années au ralenti, ou parfois pas du tout, et va redynamiser une justice paralysée. Le président, seul habilité selon la Constitution à signer des accords internationaux, pourra s'employer à renforcer la trêve fragile avec Israël et accélérer le retrait israélien du Sud-Liban. Autre dossier épineux qui attend Joseph Aoun, les relations avec les nouvelles autorités syriennes. Il devra négocier le tracé des frontières et relancer le projet du retour de 2 millions de réfugiés et déplacés syriens accueillis au Liban. Paul Khalife, Beyrouth. RFI.
Un simulacre pour Washington, un coup d'État pour l'opposition, ainsi est qualifié l'investiture de Nicolas Maduro au Venezuela. Ça ne passe pas pour une partie de la communauté internationale.
Le président a prêté serment tout à l'heure pour un troisième mandat. Lui salue une victoire pour la démocratie, mais l'opposition voit rouge. Elle ne reconnaît pas les résultats de la présidentielle de juillet. Edmundo González Urrutia, le principal opposant, dénonce des fraudes dans le scrutin. Nicolas Maduro n'a aucune légitimité démocratique, dit ce soir Kaya Kallas, la chef de la diplomatie européenne.
Des tensions politiques également en Corée du Sud. Le bras de fer se poursuit là-bas entre les enquêteurs et le service de sécurité du président déchu.
Après l'échec d'une première arrestation, un nouveau mandat d'arrêt a été émis contre Yoon Suk-yeol. La puissante garde présidentielle empêche toujours l'arrestation de celui qui a tenté d'appliquer la loi martiale dans le pays. Mais surprise, Nicolas Roca, aujourd'hui le chef du service de sécurité de la présidence, a démissionné.
Coup dur pour Yoon Suk-yeol, le président déchu qui refuse de se présenter aux convocations de la justice perd le chef de sa garde rapprochée, Park Jong-jun, l'homme qui avait organisé la résistance au mandat d'arrêt. La semaine dernière, durant 6 heures, ces hommes ont empêché physiquement l'arrestation du président. Mais ce vendredi, Park Jong-jun a fini par céder. Visé par une enquête pour obstruction de justice, il a présenté sa démission. Après avoir ignoré à 2 reprises des convocations de la police, il est allé répondre aux questions des enquêteurs et à celles des journalistes.
Je pense qu'en aucun cas il ne doit y avoir d'affrontement physique ou d'effusion de sang. Et pour éviter que ces situations se produisent, j'ai appelé à plusieurs reprises le président en exercice, Choe Sang-mok, pour lui proposer une médiation entre agences gouvernementales. Et j'ai également demandé à l'équipe juridique du président d'envisager une solution alternative. Mais je n'ai pas reçu de réponse satisfaisante.
Une réponse aux craintes d'affrontements violents entre les services de la présidence et les enquêteurs. Une nouvelle tentative d'arrestation se prépare. 1000 membres des forces de l'ordre ont été mobilisés. En plus de l'enquête pour rébellion pour laquelle il pourrait être arrêté, Yoon Suk-yeol est convoqué par les juges de la Cour constitutionnelle. Son procès en destitution débutera ce mardi, avec ou sans lui.
Nicolas Roca du service international de RFI. Et puis plus rien ne semble pouvoir arrêter Charlie Dalin. Le Havrais fait toujours la course en tête du Vendée Globe et il creuse encore plus son avance sur Johan Rich. On devrait connaître le dénouement de ce duel d'anthologie en début de semaine prochaine. Voilà pour le journal et je vous laisse en compagnie de Philippe Le Caplain pour la suite des RFI Soir.
Absolument, Arthur Ponchelet. La suite des RFI Soir, c'est dans quelques secondes. Accent du monde.